meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101, en espérant que vous ayez passé une belle journée, que vous ayez profité un peu du soleil, quoi qu'il en reste encore un peu. Et pour ce soir, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de pluie, donc profitez de votre soirée. J'ai fait la même chose moi hier, j'allais me promener avec mon chien, fait quelques kilomètres avec lui. J'ai rendu un chien heureux. pas pire, je peux vous le dire, puis il était très content rendu à la maison. OK, hey, avec tout ce qu'on entend dans le milieu de l'éducation, on le sait, on entend Bernard Drainville qui ne sait plus quoi faire. Il recherche des enseignants. De l'autre côté, les enseignants qui font ce travail-là depuis des années et des années disent « Ouais, mais attendez un peu, là, nos conditions de travail ne sont pas nécessairement évidentes. On devrait peut-être commencer par augmenter nos conditions de travail parce qu'on juge qu'elles ne sont pas suffisantes. Puis par la suite, on ira chercher peut-être d'autres personnes pour venir nous aider. Mais actuellement, il ne faut plus que de profs quittent le milieu scolaire. On a besoin de conserver des profs d'expérience, ce qui n'est pas une idée, ce qui n'est pas une idée folle, là. On a besoin de nos professeurs au Québec. » Ce qui fait en sorte que, en jasant de ça avec des collègues de travail et avec le producteur de l'émission que vous entendez, parce que j'ai un producteur pour le midi maintenant et j'ai un producteur pour le soir, son nom c'est Thomas Gauthier, vous le connaissez, ben il me dit, ben moi mon père pourrait te parler de ça, il pourrait te parler, il a fait ce métier-là pendant plus de 35 ans, il a été professeur d'histoire et de géographie, j'ai dit, ben allons-y Thomas, demande-lui s'il peut m'accorder une entrevue pendant 50-55 minutes, et c'est le cas ce soir, Marco Gauthier est avec nous, bonjour Monsieur Gauthier.
Bonjour.
Merci
ça
beaucoup.
Va?
Merci beaucoup pour l'entrevue radio. Vous allez enfin ressentir ce que votre enfant ressent à chaque fois qu'il rentre en onde.
Sauf que je n'ai pas étudié pour ça.
Non, c'est ça. Vous avez été enseignant pendant plus de 35 ans.
Oui, effectivement. Allant en universitaire, qu'on appelle de secondaire 1 à secondaire 5, ouais. En géographie, histoire, monde contemporain, j'ai touché à peu près à tous les niveaux et à peu près toutes les matières là, de l'histoire et de la géographie.
Donc là, vous avez commencé comme enseignante dans les années 80?
88,
oui, c'est ça.
88, puis j'ai pris ma retraite cette année, donc il y a quelques semaines.
Et en 88, qu'est-ce qu'on demandait à nos enseignants comme éducation pour pouvoir enseigner aux jeunes élèves?
Ben, on demandait un certificat en enseignement ou tout simplement un bac en enseignement. Dans mon cas, moi, j'ai fait 3 ans d'histoire. Puis, sur des suggestions d'amis qui s'en allaient en pré-pri, qu'on appelait dans pré-secondaire primaire, qui m'ont dit que je fais un bon enseignant. Parce que là, ben, j'ai décidé au mois de décembre, j'ai fini mon histoire et j'ai décidé de m'en aller vers l'enseignement. J'ai fait une année d'éducation. Mais après ça, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 3 autres là, ouais. Par les soirs, ainsi de suite, là, pour pouvoir enseigner. Mais là-dessus, je peux-tu te poser une question, Yannick?
Ben oui, allez-y.
Parce que moi, je me suis posé une question. Quand on m'a dit « tu es un bon enseignant », écoute, c'est pas du tout ma carrière, c'est que j'ai perdu connaissance, ou à peu près. C'est figuré. Mais la première question que j'ai répondu, c'est quoi pour moi un bon enseignant?
Ouais.
Je te pose la question, c'est quoi pour la première qualité d'un bon enseignant pour toi?
Ben moi, je vais vous répondre. J'ai eu un enseignant qui m'a marqué. En fait, j'en ai eu plusieurs, mais un enseignant qui m'a marqué d'abord et avant tout, là, c'était un passionné par le métier qu'il faisait. C'est un passionné. Ce qu'il nous enseignait, nous, c'est un professeur d'anglais. Donc, lui, ce qu'il voulait nous apprendre, c'est l'anglais, bien entendu. Puis, il y avait comme une autre façon de faire. C'est qu'il était capable de nous prendre chacun, puis il nous disait, « Ben toi, qu'est-ce que t'aimes? C'est les bandes dessinées? OK, toi, c'est les bandes dessinées. Toi, qu'est-ce que t'aimes? T'écoutes la musique? OK, c'est quoi t'écoutes comme musique et tout ça? » Puis, il était capable de nous faire des plans de cours qui faisaient en sorte que moi, je me ramassais à traduire des chansons du band Metallica. Puis je peux vous le dire, M. Gauthier, cet homme-là, sans le savoir peut-être, a changé ma vie du tout au tout parce qu'il a continué sur le fait que je m'intéressais au secondaire. Parce que, tu sais, on se pose des questions en tant que jeune ado, là, tu sais, l'école, ça sert à quoi et tout ça. Mais à chaque fois que je savais que j'avais un cours avec Jean Goulet puis que c'était mon cours d'anglais, je savais que j'allais triper. Et ce gars-là, tu sais, je le réalisais pas. Je réalisais pas tant que ça qu'il est important à mes yeux, ce prof-là. Mais encore à ce jour, tu sais, il a fait partie de mon cursus, puis il est encore là, puis je le cite en exemple. Là, j'ai la chance de jaser avec un enseignant avec plus de 35 ans d'expérience. Puis je le nomme encore. T'sais, moi, c'est Jean Goulet qui a changé ma vie parce que c'est un passionné par son métier. Puis c'est un passionné aussi des enfants. T'sais, c'est un gars qui voulait nous montrer des choses puis qui voulait nous faire réussir.
Ben, t'as répondu à ma question à la toute fin, que pour moi, qui était la première qualité d'un enseignant, c'est aimer les gens. Si t'aimes pas les jeunes, t'as pas d'affaires là. Comme une serveuse qui est pas contente puis que tu vas dans un restaurant, elle se pourrait avoir le sourire d'être là pour ça et non pas d'avoir l'air bête.
Ouais.
Ça peut arriver dans une vie.
Ouais. Des années 80, y a-tu des gens qui s'en allaient en enseignement puis aimaient pas les jeunes?
Je te dirais qu'il y en a, mais c'est peu. C'est la majorité aime les jeunes, effectivement. Ouais. Effectivement. Puis il faut que tu les aimes parce que tu es là pour eux autres. Moi, des fois, je me posais la question, bon, je fais ça, ben je revenais toujours à mes jeunes, je le fais pour eux autres. Je le fais pas pour ma direction, je le fais pas pour le gouvernement. J'ai toujours travaillé pour les jeunes. Puis tantôt, tu me demandais en 88, on nous demandait le certificat, mais moi, je me souviendrai toujours, puis je le compte à mes élèves, je leur demande la plus grande qualité ce que je t'ai posé tantôt. En passant, tu peux me tutoyer, hein, pas de problème. Puis... c'était un professeur, ça fait deux ou trois ans que j'enseignais, puis elle m'a posé la question. Elle m'a pas posé la question. Elle m'a pris un livre. Puis elle me l'a montré en montrant les pages comme ça. Elle dit, oublie jamais quelque chose. Ce que tu enseignes, c'est le livre. Et toi, tu es la page couverture. C'est ça qui te fait ouvrir un livre. C'est la même chose. As-tu déjà aimé une matière sans aimer le prof?
Non.
Ça s'arrête là. Moi, tout ce que je veux, là, puis mes deux règlements que je dis à mes élèves, OK, on va régler les notes, le gouvernement veut des notes, on va leur donner des notes, ça va être beau, c'est correct, là. Mais je vais vous donner juste deux objectifs en classe. Premièrement, être content de traverser la porte. Parce que quand tu as 13, 14 ans, puis tu viens t'asseoir sur une chaise, puis tu es content d'écouter un prof, j'ai voyagé une quinzaine de pays à travers le monde, j'ai plein de choses à compter. Si tu es content d'être là, moi, j'ai gagné ma job.
Ouais.
Parce que c'est bizarre que les enfants aiment beaucoup apprendre, même pas aller à l'école. Pour plusieurs, ça fait. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Parce que l'être humain, on adore apprendre.
Ouais. Les conditions...
Donc, il faut se donner. Ouais.
Les conditions de travail.
Il faut se donner des possibilités.
Ouais. Les conditions de travail pour les enseignants fin des années 80, ça pouvait ressembler à quoi? Est-ce que c'était des conditions qui étaient difficiles? Est-ce que vous aviez des tâches, des tâches moindres à 25 %, 50 %, ou vous commenciez pleine tâche, 100 % avec un salaire qui avait du bon sens?
Le salaire, je pense que c'était à peu près 36 000 quand tu commençais. Mais il ne faut pas oublier que 36 000, même aujourd'hui, c'est peut-être 52 000, mais la plupart des jeunes à l'époque commençaient à 50, 60 % de tâches. Fait qu'aujourd'hui, tu commences à 52 000, mais tu as 60 % de tâches. Ça te fait 30 000 par année.
Exact.
Et moi, je me pose la question, est-ce qu'on peut vraiment garder des gens attachés à l'école à gagner 30 000 par année? On m'a dit qu'il te faut un autre salaire dans la maison.
Oui, effectivement. C'est un bon salaire. Puis est-ce que la clientèle fin des années 80 était une clientèle qui était difficile? Ça ressemblait à quoi, votre clientèle, quand vous êtes arrivé comme jeune enseignant?
Ben, je vous dirais que on avait beaucoup plus de gens dans la moyenne. Donc, des gens, des groupes plus forts, un groupe plus faible, qui étaient beaucoup condensés dans les mêmes groupes. Ce qui fait que il y avait un équilibre, puis j'avais l'impression plus d'enseigner pour une moyenne. Alors qu'aujourd'hui, cette moyenne-là a un peu disparu, surtout en intégrant les cas un peu plus difficiles, ou complètement difficiles dans des classes, où j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde dans la moyenne. OK? Puis ça, c'est plus difficile à enseigner, puis il faut diversifier son enseignement.
Ouais. Tu sais, vous avez vu un petit peu plus de trois décennies d'étudiants. Là. Est-ce que le TDAH existait dans les années 80? Parce que moi, j'ai commencé à l'école dans les années 80, puis c'était quelque chose qui n'existait pas. C'était des enfants qui étaient turbulents. Et à travers ça, bien, il y en a qui, effectivement, il y avait de la difficulté à se contrôler. Mais pour la plupart, on était très turbulents. Puis on dirait qu'au fil du temps, moi, c'est arrivé lorsque j'étais rendu à l'université où là, je commençais à entendre parler de TDAH et ces affaires-là. Est-ce que vous avez l'impression, tu sais, on sait qu'on n'est pas des médecins, toi et moi, on n'est pas des médecins, là, mais est-ce que tu avais l'impression qu'il y en avait de ce type de TDAH-là dans les années 80, mais qu'on les diagnostiquait pas, puis on disait juste, ben va chez le directeur, mettons?
Oui, effectivement, c'était le cas. Effectivement, il n'y a pas de diagnostic là-dessus. Mais il y en avait ces élèves-là. Mais souvent, ces élèves-là abandonnaient aussi, si j'arrive en 4, il y avait 16 ans, ils abandonnaient, s'en allaient les adultes. Ça. Maintenant, on les garde beaucoup plus longtemps. Puis effectivement, moi, des fois, je m'amuse en me disant que dans 50 ans, les seuls diagnostics qu'il va avoir, c'est des enfants dits réguliers. Parce que les autres ont toutes des cotes. Mais si on s'écoute tous, je pense qu'on a tous quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, de la façon qu'on vit. Donc, c'est sûr que si on s'écoute tout le temps aussi, ben ça devient aussi... En tout cas, moi, c'est bien correct qu'il soit diagnostiqué. Puis je pense que pour la majorité, est-ce qu'il y en a un peu trop? Je donne un exemple. Sur 700 à l'école, il y a 125 suivis d'élèves. C'est beaucoup. Ouais. Ça demande beaucoup à la direction aussi. Et les gens sont, les jeunes, avec les parents, avec la direction, avec les enseignants, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'études de cas. Là.
Est-ce qu'on est trop après ces jeunes-là, plutôt que de dire, ben regardez, tu as un certain cursus à suivre, puis tu dois suivre ce cursus-là. On dirait que maintenant, là, il y a plein de des mots-lologues qui sont apparus, il y a plein de spécialistes de ci, de spécialistes de ça, ce qui fait en sorte qu'un enfant turbulent avec un TDAH, il y a comme plein de professionnels autour de lui pour l'aider, mais en même temps, peut-être que s'il y avait juste une figure masculine ou féminine qui est là pour l'aider, ça pourrait peut-être suffire, je ne sais pas. Je vous pose la question à vous, tu sais. J'ai l'impression qu'on les surstimule alors que ces gens-là, ils essaient juste de passer au travers de leur cursus scolaire. Est-ce qu'on n'en fait pas trop pour cette clientèle-là?
Moi, je pense pas qu'on en fasse trop, mais je regarde le côté familial qui a changé beaucoup depuis une trentaine d'années. C'est beaucoup. Il y a des jeunes qui vivent des choses assez incroyables là, à 13-14 ans que moi, j'ai jamais vécu à 59 ans. Puis ils passent à travers. Puis c'est l'âge, moi, j'avais du secondaire 2. Secondaire 2, secondaire 3, c'est beaucoup, beaucoup de transitions au niveau hormonal, au niveau de ce qu'il y en est. Fait qu'effectivement, ça demande beaucoup. Les parents sont beaucoup aussi avec le privé, le public. T'sais, on parle beaucoup de ça, puis une guerre, en guillemets, là, de tout ça. Puis on va aller au public, on va aller au privé. Donc, c'est les parents qui ont beaucoup plus de place qu'il y en avait au début, par exemple, de l'enseignement. Puis, quand on enseignait au début aussi, comme je disais tantôt, les groupes étaient plus homogènes. Aussi, si je parle pour mon centre de service, c'était beaucoup aussi des tâches unitaires. Donc, je vous donne un exemple, juste histoire secondaire 4. Qui permettait de faire des projets, de t'envoyer de ce côté-là. Si je prends dans mon service scolaire, maintenant, il y en a un poste unitaire en univers social. Donc, ça veut dire quoi? Tu touches toujours 2, 3 matières, 4 matières. Les jeunes ont souvent 2, 3. Moi, j'ai commencé, j'avais 3, 4 matières.
Ouais.
Fait que c'était difficile de commencer, mais tout le monde commençait un peu comme ça. Puis ça prenait... Moi, ça a été assez rapide. J'ai été vraiment chanceux d'entrer, mais ça a pris 7 ans à avoir ma permanence. OK? Tantôt, on parle de retenir des jeunes. Mm-hmm. Ben, il y a un de mes amis, moi, il vient d'avoir sa permanence l'an passé. Ça faisait 17 ans.
Oh boy! OK. Mais là, okay? Les gens qui rentrent actuellement vont avoir leur pleine tâche là, en partant, c'est ça?
De vrai, mais si tu vas dans des petites écoles primaires, c'est... Plus oui, mais si tu vas au secondaire, tu es dans une école, ça se peut que tu t'offres en sciences, il manque d'enseignants, mais ça ne veut pas dire qu'un poste en sciences à temps plein. Okay. Peut-être qu'il y a de sciences puis du français aussi.
Juste revenir sur le TDAH, là, parce que moi, j'avais la chance d'enseigner au Collège Radio-Télévision de Québec depuis plusieurs années, puis c'est un collège qui est privé, puis ça prend 18 ans pour y aller. Et quand je parlais de TDAH, moi, ça m'a marqué parce que, tu sais, j'ai été là à partir de 2014. Puis de 2014 jusqu'à 2023, j'ai vu une évolution du TDAH comme je ne pensais jamais voir. Et à chaque année, il y a des étudiants qui arrivaient avec leur billet du médecin. C'était diagnostiqué. Oui, il y en a d'autres qui s'essayaient en disant « Moi aussi, je suis TDAH, mais je ne suis pas diagnostiqué. » Mais là, nous, ce qu'on demandait, c'était un billet du médecin. Puis avec ce billet-là, ben, il y avait le droit d'avoir un peu plus de temps pour l'examen, exemple, et ces trucs-là. Mm-hmm. Puis dès le départ, moi, je coupais l'abcès en disant « Savez-vous quoi? Moi, je suis parfaitement au courant que vous avez un problème, que vous avez un TDAH. Votre responsabilité maintenant, c'est de prendre vos médicaments puis d'être sur le même pied d'égalité que tout le monde. » Donc, quand vous allez arriver devant un employeur, l'employeur n'aura pas à démontrer une énorme empathie là, pour embaucher quelqu'un qui est atteint du TDAH, qui ne s'occupe pas de lui-même. L'employeur va devoir choisir entre deux candidats. Et il va prendre le meilleur des deux. Mais s'il y a un candidat qui est TDAH, qui ne se responsabilise pas, et un candidat qui n'est pas TDAH, puis que lui, ben, il n'en a pas de problématique, tout de suite, il va aller vers le candidat qui n'a pas de problématique. T'sais. Puis j'essayais de leur apprendre, j'essayais de leur dire, c'est votre problème, votre TDAH. Ce ne sera pas le problème de votre employeur. Puis je vais te dire quelque chose, Marco. Quand je leur parlais comme ça, j'avais l'impression d'être le premier à leur parler comme ça. C'est-à-dire, moi, je vais te dire ce qui va arriver sur le marché du travail. Là, si tu arrives avec ton billet du médecin pour dire que tu as besoin de 65 heures, puis tu veux être payé pendant 65 heures pour un travail qui prend 40 heures, l'employeur, il a beau être le plus gentil du monde, Marco, il te prendra pas. Tu sais, lui, il a besoin de quelqu'un qui est capable de faire un travail efficace à 40 heures. Si toi, tu as besoin de 65 heures avec ton billet du médecin, il te prendra pas. Puis on dirait que c'était la première fois qu'ils entendaient ça. OK, puis ils trouvaient une certaine logique à ça, parce que si eux deviennent propriétaires un jour d'une entreprise, ben, ils prendront pas un gars TDAH qui se responsabilise pas, puis qui prend plus de temps, puis qui va être payé toutes ces heures-là qu'il prend en plus. Il faut qu'il soit aussi efficace que quelqu'un qui ne l'est pas, tu sais.
Je suis d'accord avec toi, mais enlève le mot TDAH, c'est la même chose. Je veux dire, dans n'importe quel job, il faut que tu te responsabilises par rapport à qui tu es et à qui tu fais, effectivement. Mais effectivement, c'est d'avoir une certaine équité. Tu as parlé d'égalité tantôt. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'image avec un père, une mère et un enfant, puis où tu es égal pour tout le monde. C'est-à-dire, tu leur donnes tout un petit banc pour voir le spectacle qui est l'autre bord de la clôture. Mm-hmm. Alors que si tu es équitable, tu vas en donner deux à l'enfant, tu vas en donner un à la femme, puis le gars, il est capable de voir pareil. Fait que des fois, je leur expliquais aux élèves, il y en a qui trouvaient ça injuste, qu'il y en a qui avaient plus de temps ou qui avaient un ordinateur en classe et tout ça. Mais je leur expliquais, OK, on va être égal avec tout le monde, enlevez vos lunettes, ceux qui en ont.
Wow!
OK? Ouais. Puis à partir de là, tu vas dire, écoute, oui, t'es égal à tout le monde, mais t'es équitable et égal. Je reviens aux 400$ que le gouvernement a donné à tout le monde, qui gagnait pas 100 000. C'est ce que j'ai fait avec mon argent.
Qu'est-ce que t'as fait?
Je suis allé le porter à un organisme de charité, puis j'ai dit, je pense que le gouvernement, il s'est trompé. Il m'a envoyé un chèque qui n'était pas à moi.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, c'est bien beau d'être égaux, mais je pense que ça avait quand même fait pas mal les manchettes, que c'est un petit peu ridicule.
Ouais. En même temps, je comprends très bien ton concept, puis je trouve ça franchement intéressant. Puis tu sais quoi, je pense que je vais le réutiliser avec mes enfants, je vais avoir de l'air intelligent, puis ça va, ça va venir de toi, Marco. Mais sur le marché du travail, là,
À
talent égal, si tu as un TDAH et tu t'en occupes pas, ben le propriétaire de l'entreprise va prendre le gars qui n'a pas de problème. T'sais? Puis c'est ça que j'essayais de démontrer à mes étudiants, c'est que c'est fini, là, les petites passes où vous allez avoir besoin de plus de temps. Quand vous allez arriver sur le marché du travail, vous devez être aussi concurrentiel que les autres. Je te dirais que ça prenait un certain temps d'adaptation, là, parce que c'était la première fois que quelqu'un leur disait comme ça. T'sais? Normalement, les gens, ils démontrent de l'empathie et ils trouvent des solutions pour aider tout le monde. Mais là, rendu dans. Si tu veux arriver dans la Ligue nationale, il faut que tu sois aussi performant que les autres, du moins, pour pouvoir participer à la game. Mais cela dit, tu sais, en 35 ans, tu as vu l'évolution, toi, des TDAH qui sont arrivés. Puis on s'explique ça comment, ça, tu sais, dans le merveilleux monde de l'éducation. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça, c'est arrivé? C'est-tu les écrans? C'est-tu moi qui regardais la télé trop proche quand j'étais jeune? Ma grand-mère disait, tu vas te scraper le cerveau, puis finalement, elle avait raison, tu sais. On s'explique ça comment? Dans le corps professoral?
Bien, moi, je pense aussi qu'il y a une meilleure connaissance du cerveau. Hein. Tu sais, c'est une machine, c'est ce qu'on comprend le moins bien dans le corps humain, hein, au niveau du cerveau. Puis je pense que, effectivement, les analyses, la compréhension, on ne comprenait pas pourquoi ces jeunes ne réussissaient pas à l'école. Maintenant, on comprend mieux pourquoi ils ne comprenaient pas. Mais effectivement, comment dire, c'est bien qu'il y en a qui soient diagnostiqués. Est-ce qu'il y en a trop? Moi, je pense que oui. À un moment donné, là, ça devient comme OK, c'est ça, puis on en accepte peut-être trop, comme je te disais tantôt. 125 cas sur 700 élèves, c'est énorme.
C'est énorme. Mais quand on regarde les stats, Marco, au Canada, on est la province où on a plus de diagnostiqués de TDAH. Je parlais avec une experte qui me disait c'est peut-être parce qu'on est la province qui est la meilleure pour diagnostiquer le TDAH. Puis quand je parle avec d'autres, c'est peut-être parce qu'on est facile à diagnostiquer le TDAH. Il y a des examens rigoureux qui sont supposés d'être passés. Mais cela dit, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète. T'sais. Là, actuellement, mes gars ne semblent pas avoir de TDAH. J'essaye le plus possible de vérifier ça parce que je veux pas qu'il y ait de problème au niveau de leur éducation. Mais tu sais, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais tu as dit quelque chose tantôt que j'ai trouvé ça très drôle. Ça va être des diagnostics de personnes qui ont pas de TDAH qu'on va avoir.
des fois, on regarde des classes où il y en a énormément, là, je veux dire... On en emmène de plus en plus. Avant ça, qui étaient dans des classes plus spécialisées, on les emmène dans des groupes réguliers. Mais effectivement, des fois, tu regardes la classe, tu te dis, OK, il y en a beaucoup, là, qui ont des ce qu'on appelle des cotes, là, à côté. Ça peut...
Parle-moi des relations parents-enseignants. Moi, quand j'ai commencé l'école, je me plaignais des enseignants à ma mère et ma mère me regardait dans les yeux. C'était une grande philosophe. Elle me regardait dans les yeux et elle disait... Le professeur qui a raison ou qui a tort dans la classe, tu l'écoutes, c'est sa classe à lui. Quand tu es ici, tu es chez nous, c'est moi qui mène, le professeur mène. Là, moi, ce que j'entends c'est de mes amis professeurs, c'est bien souvent les parents disent « Mais pourquoi tu as dit ça à mon enfant? Puis pourquoi il doit faire du travail supplémentaire? Puis pourquoi tu as dit ci? Puis pourquoi tu as dit ça? » Puis ils ont comme une tendance à régulièrement défendre leur enfant. Je pense qu'on peut défendre quand même nos enfants, mais... Dans une classe, à mes yeux, à moi, le maître qui est là c'est l'enseignant, c'est pas l'enfant.
Effectivement. On fait souvent des voyages avec des élèves, hein? Puis à un moment donné, les premiers voyages que je faisais, je disais, c'est quoi ma responsabilité à ma direction? Puis en me disant, ta responsabilité, en vérité, quand les enfants sont à l'école, j'ai la même responsabilité qu'un père de famille. Qu'est-ce que tu ferais? Okay, t'enverrais-tu tes filles, quatre filles à New York en plein milieu de la nuit à 3 heures du matin?
Non.
Non. Si c'était tes filles. Donc, c'est exactement ça de ce côté-là. Pour ce qui est des parents, oui, ils prennent beaucoup plus de place. Puis, par exemple, dans le privé où ils vont débourser de l'argent encore plus, ils prennent beaucoup de place. Mon père me disait, quand il rentrait, on est dans les années 50, là, tu mangeais une taloche parce que le prof t'a donné une taloche, puis t'en recevais un autre chez vous.
Ouais, exact.
C'est bien correct que ça soit parti aussi, tout ça. Mais effectivement, bon, ils prennent beaucoup de place. Moi, Jérôme a eu de la difficulté, vraiment rarement, mais moi, j'oubliais jamais quelque chose, c'est quand tu parles des enfants, tu parles des trésors de leurs parents. Donc, il faut le faire avec tact. On peut dire la vérité, mais il faut vous distinguer les actions de la personne, et ça, de ce côté-là, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Je te donne un exemple. Quand je remettais les bulletins, au début, là, quand j'enseignais, okay, je remettais les bulletins, j'invitais les élèves. Et ce n'était pas du tout la norme à cette époque-là. Okay? On remettait un bulletin aux parents. Mais moi, je me disais, j'invitais toujours les jeunes à venir chercher leur bulletin. Parce que, un, ça les concernait bien avant moi et bien avant leurs parents. C'est leur vie. Mm-hmm. Donc, je les invitais à faire ça. Plus tard, là, on a commencé à inviter les jeunes, tout ça, mais moi, je l'ai fait bien avant. Deuxièmement, j'en profite, parce que souvent en classe, on n'a pas le temps, pour parler, pas de l'élève, mais de la personne. Tu peux être un très mauvais élève, mais une très bonne personne, et le contraire est aussi vrai. Donc, vu qu'on ne prend jamais le temps ou rarement le temps de faire ça, quand mes élèves viennent, je peux leur dire « tu as vraiment une belle personnalité. Je trouve vraiment que c'est plaisant d'être avec toi, tu as plein d'amis autour de toi, tu es gentil. » Et je vais parler à la personne. Au début, je parle de l'élève avec le parent, tout ça. Mais à un moment donné, après ça, je parle de la personne. Et dans la vie, vaut-il mieux être un bon élève ou une bonne personne? Ben moi, je pense que c'est mieux être une bonne personne.
Oui, je pense qu'on est plusieurs à le penser aussi. Donc, c'était ta technique.
Oui, c'est ma technique là, à ce niveau-là.
Puis, mais est-ce que les parents se mêlent un peu plus de l'éducation de leurs enfants? Puis est-ce que le fait de se mêler de l'éducation de leurs enfants, quand ils vont vous voir en te faisant, en te disant, ben là, t'as fait telle affaire, puis là, t'as pas d'affaire à faire ça. Puis est-ce que, moi, comme je te disais, ma mère apprenait, même si le professeur avait tort, ma mère prenait la part du professeur en disant, tu vas avoir des employeurs comme ça plus tard. Puis ton employeur, des fois, il a raison. Ton employeur, des fois, il a tort. Mais c'est ton employeur. Et si tu ne l'acceptes pas, tu quittes, bien entendu. Mais ton employeur a le droit de se tromper aussi, comme ton professeur a le droit de se tromper.
Effectivement. Puis on fait une équipe. Hein? De plus en plus, on essaie d'instituer ça avec les parents, qu'on est une équipe. Moi, je dis souvent à mes élèves, tes parents puis moi, on est des entraîneurs de hockey. On essaie que tu sois meilleur dans la vie, comme des entraîneurs de hockey ou hockey sont en train. Donc, c'est très important qu'on forme une équipe ensemble, effectivement, avec les parents. Parce que, oui, ils peuvent donner un exemple très concret. Une élève qui ne portait pas ses lunettes de sécurité en salle. OK? Fait que le prof lui donne une fiche rose que la mère doit signer en disant « Votre fille ne porte pas de lunettes de sécurité. » Elle a des lunettes, mais il faut quand même mettre des lunettes de sécurité. Puis, sa mère signe en bas « Ben, ma fille a bien fait de ne pas porter des lunettes de sécurité. » Elle vient-tu d'enlever l'autorité au prof, tu penses?
Exact, oui.
Carrément. Fait qu'un modèle est obligé d'appeler le parent puis dire « Juste de marquer ça, vous venez de m'enlever toute autorité. » Effectivement, l'autorité, il faut qu'elle reste. Mais moi, je n'avais pas vraiment de problème avec les parents. Au primaire, là, je ne pourrais pas dire, mais je pense que des fois, les parents en prennent plus large qu'au secondaire.
OK. Dans mon avis. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette profession-là semble être délaissée dans les dernières années, alors que moi, quand j'étais jeune, c'était extrêmement valorisé. Là, quand tu devenais professeur, il y avait une valorisation qui venait avec ça. Dans une famille, tout le monde était fier. Ben oui, il rentrait à telle école, il va enseigner à telle place, il va enseigner à telle personne. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, les jeunes filles, les jeunes garçons ne semblent plus nécessairement attirés envers cette belle profession-là? Puis en même temps, tu sais, moi, je regarde cette profession-là, puis j'entends toujours vocation. Tu sais, quand j'entends le métier de professeur, quand j'entends le métier de policier, ambulancier, infirmière, médecin, j'entends tout le temps vocation, vocation, vocation. Qu'est-ce qui fait que les gens semblent plus nécessairement attirés en grand nombre par cette profession-là, alors que c'est une belle profession, là?
Ah oui, ça, effectivement. Puis je veux dire, c'est pas redondant là, comparé à faire des lingots d'aluminium chez Rio Tinto, par exemple. Donc, c'est vraiment un peu comme ton émission de radio, c'est pas redondant, puis ça change. Même si tu fais toujours la même chose, c'est toujours différent. Donc, je pense qu'il faut aller en amont. OK? C'est sûr que là, il y a une pénurie d'enseignants, puis il en rentrait plus gros dans l'enseignement, parce qu'effectivement, tu avais quoi? On commençait à 46 000. Sort en moyenne, je regardais ça ce matin en pensant à l'interview, 11 500 piastres de dette. Tu vas travailler à 50-60 de tâche. Fait qu'à 46 000, tu gagnes 25 000. OK? Les stages, tu n'es pas rémunéré. 4 mois de stage, puis tu n'as pas le temps de faire d'autres choses parce que tu as 2-3 massages. Fait que là, tu n'as plus d'emploi, tu n'es plus capable de le faire. Fait que il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'ils ont fait pour justement enlever ces gens-là. C'est très difficile. On parle de 20 % des gens dans les 5 premières années qui sont plus des enseignants. C'est énorme aussi. La tâche est lourde. Par exemple, quand tu avais une tâche unitaire, comme je te parlais au début dans les années 90, où tu avais une matière, ben, tu pouvais te concentrer sur d'autres choses. Quand tu as 4 matières la première année que tu enseignes,
là, ça doit être un non-dit.
Ah non, tu étudies le soir pour enseigner le lendemain.
Ouais.
Fait que c'est un peu fou. Tu es complètement pris dans l'école, c'est 24 heures sur 24. Puis c'est un métier aussi que quand ça va mal avec tes groupes, ça se peut que tu dormes mal. OK? Parce qu'effectivement, là, ça va être prenant. Tu vas te demander qu'est-ce que je fais avec cet élève-là, qu'est-ce que je fais avec sa classe-là, comment je vais amener ça. C'est sûr qu'avec l'expérience, ça aide un peu, mais quand même, je me pose des questions. Je te dis le pire mois de juin que j'ai eu de ma vie. Puis c'est pas parce que mes élèves étaient difficiles, mais parce que je faisais un projet puis ça demandait beaucoup. C'est cette année, puis ça faisait 35 ans.
Mais est-ce que vos programmes d'enseignement, là, la matière que vous donnez, est-ce que vous la changez à chaque année ou vous utilisez à peu près le même matériel, vous utilisez les mêmes mots? Comment ça fonctionne concrètement au day-to-day?
OK. C'est nous autres qui prenons la décision en tant qu'enseignant. Là, on est professionnel, on peut faire ce qu'on en est. Mais moi, pour ma part, je n'ai jamais fait ça. Je peux te parler de deux projets que je fais depuis 3 ans.
Ouais.
Le conseiller pédagogique vient me voir et dit « Marco, ça te tente-tu de faire un projet? » Le récit univers social, ils ont fait un projet. Puis c'est de construire une ville industrielle du 19e siècle avec Minecraft.
Wow!
On est-tu ailleurs?
Marco, tu jouais-tu à Minecraft?
Non, et je ne suis pas bon. Quand tu m'as proposé ça, c'était justement pendant la COVID, et je suis rentré dans les classes d'élèves qui étaient avec d'autres profs, puis je leur disais, j'ai une question pour ça, qui a déjà joué à Minecraft? Une vingtaine d'élèves qui ont levé la main. Puis la même chose dans toutes les classes, j'ai dit, OK, c'est beau, si on fait un projet là-dessus, ça vous intéresse-tu? Oui. Fait qu'on est allé sur Street View, on est allé visiter une ville en Angleterre, qui encore, comment c'était, les canaux, l'usine, et ainsi de suite. Et on a divisé les tâches en mettant, le charbon, la mine de charbon, l'usine, il y en a qui faisaient des canaux, ils faisaient des bateaux, les autres faisaient un quartier ouvrier, l'autre bourgeois. Et dans toute la classe, on construisait une ville comme ça, avec des affiches, je ne sais pas, je joue à Minecraft, mais on peut faire des affiches avec écrire, on écrivait des textes par rapport à ce qu'on était, puis on pouvait se promener là-dedans. Puis ça, c'est 3 ans avant la retraite. Puis s'il m'a proposé, c'est parce qu'il savait que j'allais dire oui. Donc, je pense que les élèves ont le droit d'avoir et d'être préparés dans un monde. On dit que 80-90% des emplois que les jeunes vont avoir ne sont pas encore inventés. Donc, on doit les amener en 2023.
Ouais.
Moi, pour ma part, ça fait 10 ans, 12 ans que je n'ai pas de cahier d'exercice. Sais-tu pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu ça, toi, dans un poste qu'on demande remplisseur de cahier d'exercice?
Non, jamais.
Il y a quoi de motivant à faire la page 8 à 12?
Mm-hmm.
Et ça ne l'est pas. L'an passé, j'ai dit, on fait quelque chose, je m'occupais de l'informatique à l'école. On avait 10 imprimantes 3D, une découpe au vinyle, une découpe au laser, ça vaut 25 000 $ dans une école. Je dis aux élèves, OK, on fait un jeu de société en histoire. On a fait une valise pour mettre le jeu avec des charnières, des poignées, des fermetures à l'imprimante 3D, des copes au vinyle dessus. On a fait avec la graveuse au laser, on a fait le jeu de société que les élèves ont inventé. On a fait des cartes en histoire sur tel ou tel sujet et on en avait un par classe. Et on a même scanné des élèves en 360 en faisant des pions qui étaient à leur image.
Colin Debin.
On est ailleurs?
Ça a dû être compliqué que les filles, ça, par exemple, avec le profil, là, faire le bon profil avec l'imprimante 3D, ça devait être compliqué. En tout cas, moi, chez nous, à la maison, quand je prends des photos avec les filles, là, c'est tout le temps, on va en prendre 25-30 pour être sûr et certain qu'on va en sortir une qui est bonne. Puis là, mes deux gars, eux autres, sont un peu moins compliqués, là, ils s'en sacrent carrément. Mais ce que tu me racontes, là, ce que tu fais pour tes élèves année après année, as-tu l'impression que c'est une majorité d'enseignants qui font ça ou c'est une minorité?
C'est sûr que là, je suis un petit peu plus à l'extrême parce que j'aime l'informatique, je suis dans l'app créatif, tout ça. Mais je pense qu'il y a des choses à faire de plus du côté des enseignants pour justement nous amener en 2023 puis amener ces élèves en 2023. Parce que je t'expliquais tantôt qu'effectivement, mes élèves ont le droit d'être en 2023 puis je veux le droit, dois leur donner l'impression qu'ils sont en 2023. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, de les stimuler. Puis un cahier d'exercice, Oui, c'est plaisant pour un enseignant parce que quand je suis remplacé, je peux dire à un enseignant, tu vas faire la page. Mais à part de ça, moi, je trouve pas de motivation à avoir des cahiers d'exercices, puis surtout que les cahiers d'exercices sont rendus avec la matière intégrée. Ça fait que tu as, mettons, 400 pages, 300, 400 pages, j'exagère pas dans un cahier d'exercices. Tu as 100 cours, ça fait qu'il faut que tu en fasses 4 heures par jour. Fait ouais. Qu'est-ce que tu fais? Du cahier d'exercices.
OK.
Et hey, moi, je trouve pas ça mon temps.
Marco ouais. Gauthier, professeur pendant plus de 35 ans, là, j'aimerais démystifier ce que vous faites pendant les congés pédagogiques. Parce que moi, dans ma tête, un professeur en congé pédagogique, là, il est comme Gino Chouinard. Puis il se promène avec son café dans l'école, puis tape dans les mains des autres profs. Hey, une belle journée de congé à l'école, puis ça lit le journal, puis ça met de la musique. C'est tout ça qui se passe pendant les journées pédagogiques.
Hé, hey, papa en tout. Pas du tout. Écoute, un cours, ça se prépare, ça se donne. Tu peux faire de la correction. Moi, j'avais un programme d'études internationales pour te donner une petite idée. Là. Quand c'était le temps de remettre les notes en PEI, la correction, ça me demandait normalement, puis je corrigeais un peu dans les journées pédagogiques, mais je t'avoue que je le faisais plus chez nous. Là. Mm-hmm. Mais le samedi matin de 8h à midi, puis le dimanche matin de 8h à midi pendant 3 fins de semaine. Et ça, j'incluais, normalement, j'en corrigeais un le soir, puis un le matin en me levant, un travail. Fait que c'est vraiment demandant. Aussi. C'est sûr qu'une une classe pas d'élèves, c'est moins compliqué. Donc, on a personne à gérer, on a juste nous autres. Mais on se prépare là-dedans aussi. On a beaucoup de réunions dans lesquelles on va regarder qu'est-ce qui s'en vient, pourquoi. Puis on a beaucoup de réunions après l'école aussi, à savoir, OK, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a. Donc, beaucoup de corrections, planification. Beaucoup d'entraide aussi, parce que quand tu planifies, comme moi, je m'occupais de l'informatique au niveau de l'école, bon, ben moi, je suis tout le temps dérangé. J'ai tout le temps quelqu'un qui vient me voir, OK, ça, ça marche pas, comment on peut faire ça? As-tu une idée de tel type de d'application qu'on pourrait faire avec ça? Donc, ça demande vraiment beaucoup, là. Non, mais on travaille des journées pédagogiques. Écoute, je sais pas, moi, je finissais normalement, j'aurais dû finir en 3h30. Des fois, je partais à 4h moins quart, à 4h, à 4h et quart. Je m'en foutais un peu, je faisais ce que j'avais envie de faire. Mais on travaille. C'est sûr que des fois, c'est un peu plus relax, mais normalement, je vais te dire, dans une année scolaire, je prends à peu près jamais de pause.
Oui. Mais tu sais pourquoi je te posais la question, hein, pour ce qui est des fameuses journées pédagogiques, parce qu'il y a tellement de gens qui disent « Mais voyons, il y a tout le temps en journée pédagogique. » Oui, mais t'es peu, là. Tu sais, toi, dans une entreprise, tu as des réunions avec les boss, tu sais. Ils te font part de leurs diverses orientations, des changements qui ont lieu, puis blablabla, le nouveau truc qui arrive et tout ça. Bien, de leur côté, c'est la même affaire pour les profs, et en plus, vous avez de la correction à faire, là.
Puis, je vais te donner, par exemple, au début de l'année, nous autres, on a 4 journées pédagogiques. Il y en a normalement souvent une journée et demie, 2 jours de réunion. Comment ça va se passer cette année? Dans 13 jours. Tu as 4 planifications.
Ah non, c'est ça.
Fait que tes 2 journées pédagogiques, moi, tu veux dire que. Puis là, il faut que tu prépares ta documentation que tu vas envoyer à l'imprimerie. Il faut que tu regardes dans chacune des matières ce que tu vas faire. Il faut que tu vois le prof aussi. Parce que si tu as 4 planifications à faire, oublie ça, là, tu ne seras jamais capable de faire ça pour performer là-dedans. Donc, tu vas faire quoi? L'an passé, un de mes stagiaires qui avait le même niveau que moi, ben, il m'a suivi durant l'année. Quand j'envoyais les examens, je disais, OK, regarde l'examen, je t'envoie l'examen, je vais t'envoyer les copies que j'envoie, tu veux-tu faire ça avec moi? Puis, tu sais, il faut que je m'en occupe des jeunes, parce que sinon, ils n'arriveront pas, là. C'est impossible. À 4 matières d'être performant.
Mario, je te donne une lourde tâche.
Marco
Gauthier, oui. Je te donne une lourde tâche, parce que je suis en train de penser en même temps que je veux te poser la question. Là. Je suis François Legault et toi, tu es mon nouveau ministre de l'Éducation. Est-ce que oui ou non, tu interdis les cellulaires en classe, Marco?
Ben, ça, c'est déjà interdit en classe. Les élèves arrivent en classe, mettons, ils l'ont oublié durant la récré ou n'importe quoi, ils viennent le déposer sur ton bureau. Sinon, c'est une fiche rose, on n'a pas de problème avec ça. Je sais qu'en France, c'est encore plus sévère que ça, pas dans l'école. Puis c'est peut-être pas mauvais parce que un jour, quelqu'un a dit, j'ai gardé la parole, un cellulaire, ça rapproche ceux qui sont loin et ça éloigne ceux qui sont proches.
Moi, je pense que ça, c'était Platon, ça. C'était le grand philosophe Platon qui disait ça.
Alors, <c'est... rire>
j'ai vu passer ça sur Internet.
Mais effectivement, c'est vrai. Des fois, trois élèves sont assis à côté un de l'autre, il n'y en a pas un qui se parle, puis sont sur Internet.
Parce qu'en Ontario, ils ont mis l'interdiction totale, et je regardais les statistiques là, pour ce qui est du syndicat des enseignants qui ont fait passer un sondage parmi les enseignants au Québec. Oui. Est-ce que vous seriez pour ou contre l'interdiction du cellulaire en classe? Et c'est 96%, Marco, des enseignants qui ont dit, nous, des cellulaires en classe, on n'en veut pas. C'est pour te dire à quel point les enseignants sont achalés là, par les fameux cellulaires en classe.
Effectivement, bien, ça ne devrait pas être le cas. Puis dans notre école, ça fait quand même, je dirais, 3-4 ans qu'on n'avait plus le droit, puis on n'avait pas de problème avec les élèves là, de ce côté-là. À part si on avait vraiment quelque chose de précis à faire avec le cellulaire, je te donne un exemple, je suis allé voir la ville de Florence avec Street View, en 3D avec des casques virtuels, puis des fois c'est moins compliqué de prendre leur propre cellulaire que de prendre ça, mais on les avertit, on dit à la direction, OK, on en a besoin pour ça, pour le faire, effectivement. Mais tu parlais de le gars, je prends par exemple le fameux 12 000 $ qu'ils ont offert aux enseignants qui voulaient rester à la retraite. Ouais. Mais encore là, tu sais, quand on dit de travailler en amont plutôt qu'en aval, bien, on t'offre ça 5 semaines avant de prendre ta retraite, alors qu'on dit que tu dois dire si tu vas prendre ta retraite au mois de mars ou avril. T'es en retard, là.
Ben oui, ça n'a pas de bon sens.
T'es comme vraiment pas dedans. Tu m'offres 12 000 $ de plus. 12 000 $ c'est 26 jours de suppléance. Fait que tu m'offres de me donner 12 000 $ de plus pour travailler 200 jours, faire de la planification, faire de la correction, ou je vais aller faire 26 jours de suppléance sans planification, sans correction, puis il va me rester 174 jours pour faire d'autres choses.
Ouais.
Alors, c'est sans retard, deux, c'est encore bâclé, mais l'éducation, puis là, je ne mets pas juste la faute sur la CAQ, mais ça fait longtemps que ce n'est pas valorisé. Tu sais, la différence entre un boss et un leader, bien, moi, toutes les fois qu'il y a un ministre de l'Éducation, on va plus penser à un boss qu'à un leader. OK, valoriser l'enseignement, tu l'as dit tantôt, bien, je pense que ça doit être valorisé. Puis c'est tu l'as dit tantôt, une vocation, et je pense que c'est une vocation. Une autre chose, tu dis comment retenir les jeunes, tantôt, tu me posais la question, puis je suis allé voir un peu. Puis je veux juste te faire une comparaison. Nous autres, là, on commençait à 46 000, là, ils l'ont augmenté à 52 000, je pense, pour les jeunes. Là. On se rend jusqu'à 82 000. À 92
000.
92, oui. OK. Ça fait 40 000. Mais on a 16 échelons. Ça veut dire, à chaque année, tu montes à peu près 2 500 $. OK, pour arriver à 92 000. Je prends un exemple de policier, puis là, je ne veux pas critiquer. Ils commencent à 46 000, puis après 5 ans, ils sont à 84 000. À un moment donné, tu dois monter. Moi, je vais donner un exemple, faire de la rétention.
Ouais.
OK, quelque chose que je ferais. OK, tous les nouveaux profs, vous allez avoir le salaire de prof débutant qui est de 52 000. Vous devez vous présenter dans une école. Chaque matin, vous allez faire de la suppléance. S'il n'y a pas de suppléance, vous allez aider les enseignants qui sont là. Vous allez aussi, par exemple, s'occuper pour faire la remise des prêts à fin d'année. Vous allez décharger les autres profs parce qu'il y en a de plus en plus. On nous en demande de plus en plus à chaque fois. Fait que, puis, tu vas avoir des gens qui vont gagner 52 000 plutôt que 50 % de 52 000. Bien, ils vont vouloir rester dans la cabane. Ils vont être associés à des écoles. Puis, la suppléance, il y en a plein à faire. Mais quand tu n'auras pas de suppléance, tu vas aller aider d'autres enseignants. Tu vas faire d'autres choses.
Mais ce que tu me dis là, Marco, ça a plein de logique, mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement de faire ça, de mettre ça en place? C'est-tu le syndicat qui est trop puissant et qui dit toujours non à chaque fois? Non,
pas du tout. Je pense que ça, si on offrirait ça, ça serait vraiment génial. Puis même les jeunes, ça leur permettrait de rester dans le réseau puis de faire, comme je te dis, si tu es monoparental, tu as un enfant, on a 26 000 par année. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis on s'entend-tu que 92 000 à Alma, au Lac-Saint-Jean, puis 92 000 à Montréal, c'est pas le même argent.
Ben non, c'est clair.
C'est très clair, là. Donc, ça fait que, imagine-toi 26 000.
Mais c'est fou de voir à quel point, des fois, parce que moi, je suis un gars de médias, j'aime écouter les politiciens, puis j'analyse leur discours, j'écoute ce qu'ils nous disent, j'entends les questions des journalistes, mais quand on arrive directement sur le plancher des vaches, là, puis on jase avec les gars puis les filles qui sont vraiment en théâtre de guerre, il y a une dichotomie entre ce que les politiciens peuvent nous dire puis ce que les enseignants peuvent nous dire. Moi, quand tu me dis « Yann, tu sais... Oui, le salaire, il est affiché comme à 50 000, mais si tu as 50 % de tâches, ben c'est pas 50 000 que tu as, c'est 25 000 $. Il n'y a personne qui est capable de vivre avec ça. Là.
Non, absolument pas. C'est pour ça que ça pourrait être une bonne façon de garder les nouveaux enseignants, puis en même temps, tu les impliques. Tu n'as plus besoin de suppléance parce qu'ils sont dans les écoles déjà, donc ça va être inclus. Sauf que tu vas savoir combien tu gagnes, tu vas savoir où tu t'en vas. Puis à dire 52 000, bien là, je vais rester. Mais à 26 000, tu risques de partir. Il y a même des gens qui sont partis, puis ça faisait 15 ans ou 20 ans qu'ils étaient en enseignement, qui sont partis. Tu sais, des gens qui font 35 ans, il y en a de moins en moins. Mais je peux juste te dire quelque chose, Yannick. Ça faisait 35 ans que j'enseignais et j'adore encore ça.
Ouais.
Et mes élèves me l'ont dit à l'examen de fin d'année, même si c'était votre dernière année, ils savaient, vous aimiez encore ça, on aimait être dans votre cours. Fait que, mais c'est souvent les tâches connexes qui viennent, qui, à un moment donné, corriger du PAI pendant trois fins de semaine de suite pour arriver à remettre les notes, j'étais un peu tanné de ça. Mais être dans une classe, tu me dirais, puis ça, c'est peut-être facile au primaire, tu me dirais, écoute, je vais te donner juste deux groupes, puis ça me plairait, mais sauf qu'au secondaire, ça me donne deux groupes, je vais travailler 9 jours sur 10.
Non,
Je comprends.
Mais je comprends beaucoup de choses, Marco, en entendant tes explications, tu me parles de ta carrière, tu me parles de tes élèves, je le vois à quel point tu as encore énormément d'amour envers ce fabuleux métier-là. Puis je comprends bien des affaires aussi, j'ai la chance de travailler avec ton fils à tous les jours, puis là, j'apprends un peu plus à le connaître parce qu'il produit maintenant mes shows, puis il s'occupe que les shows soient droits. Puis je le sais maintenant pourquoi ce petit gars-là, c'est un bon gars, puis je l'aime bien. C'est parce qu'il ressemble beaucoup, à son père. Puis ce midi, il m'a dit quelque chose de drôle. Je ne sais pas s'il me l'a dit en onde ou hors d'onde, mais il m'a dit que tu y as déjà enseigné aussi.
Oui.
Il a passé dans ta classe. Tu sais quoi? Moi, ça aurait été la dernière des choses. T'sais, être dans la classe de mon père, jamais. J'aurais jamais voulu. Comment ça a été, cette expérience-là, avec ton fils?
Écoute, je lui ai demandé en premier. Ça te dérange-tu que je sois ton prof? Puis il m'a dit, non, ben j'ai une sphère de relation avec mon garçon aussi. Là.
Ouais.
Puis j'ai dit, écoute, ça te dérange-tu? Il dit, non, ça ne me dérange pas. Il dit, parfait. Fait qu'on en a. Je pense que, tu sais, les jeunes respectent les profs qui sont équitables. Puis j'ai été équitable avec Thomas, puis peut-être plus sévère qu'avec d'autres. Souvent, avec nos enfants, on est plus sévère.
Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il fasse les devoirs à la maison, j'imagine.
Ouais. Effectivement, puis il y avait des choses à remettre, puis tout ça. Puis je savais ce qui se passait à l'école. Je ne sais pas, comme Thomas au début. Par exemple, je parlais avec le prof de français. Comme par exemple, la compréhension de texte. Chez les garçons, ça arrive souvent 2 ans plus tard que chez les filles.
OK.
La maturité. Donc, à un moment donné, il y avait un livre à lire en français. Ben, on l'a lu ensemble. On lisait à peu près, je disais, lis-moi 5-6 pages. OK, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il a dit cette phrase-là? Et, tu sais, je l'ai aidé là-dedans, ça l'a beaucoup aidé en compréhension de texte. Mais là-dessus, j'ai aimé ça, j'ai adoré ça. C'était drôle quand il me disait papa.
En classe, ouais, c'est ça.
Mais comme je dis, c'est le seul qui est supposé. Qui est supposé dire papa, à moins qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas.
Ben, c'est ça.
Mais normalement, c'est le seul qui peut m'appeler papa, fait qu'il m'appelait papa. C'était correct.
Non, c'est parfait.
Puis, en passant, Yannick, merci. Je sais que tu es très gentil avec lui, puis tu vois tout le travail qu'il fait, puis tu en parles souvent. Ben, je te remercie là-dessus.
Mais j'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite, Marco. Puis je leur ai dit hier, parce que on a fait une réunion d'équipe hier. Puis la raison pour laquelle ils ont la chance de faire ce métier-là, c'est en raison des personnes qui sont. Puis à quel point ces gens-là travaillent. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vont être autour qui vont le remarquer, que Pascal travaille plus fort que les autres, que ton fils travaille plus fort que les autres, que Thomas travaille plus fort que les autres. C'est un charme de travailler avec ton gars, puis je tenais absolument à te le dire. Puis quand il m'a proposé son père comme prof, je me suis dit, il doit vraiment savoir que son père a fait le travail parce que, tu sais, sans quoi il t'aurait jamais proposé. Mais je comprends un peu plus Thomas maintenant, à cette heure que j'ai vu, à cette heure que j'ai vu son père, puis j'imagine que sa mère a fait un très bon travail aussi. Là, je t'entends, là, tu étais à la retraite, là, tu as fait 35 ans d'enseignement en histoire puis en géographie. Moi, j'ai l'impression que dans un an, tu vas retourner sur les bancs d'école. Là. C'est une impression.
Oui, je vais retourner travailler. Mais c'est sûr que la décision, ça ne sera jamais financier. Dans le sens où, avec la retraite que j'ai, je me dis, je veux juste rendre le monde meilleur. Je ne sais pas de quelle façon, mais je vais le faire de ce côté-là. Il y a plusieurs possibilités. Il y a premièrement la possibilité de retourner enseigner, mais ça ne sera pas avant le mois de mars, comme je disais tantôt, je pars en Thaïlande, janvier-février. Donc, au mois de mars, j'ai été approché aussi pour m'occuper des labs créatifs. Je te parlais tantôt des imprimantes 3D et tout ça. Ben, c'est moi qui s'en occupe dans l'école. Mm-hmm. Puis, j'ai été approché par le centre de service et des personnes là, pour pouvoir faire une continuité là-dedans, là, parce que ça demande beaucoup de connaissances au niveau du matériel, au niveau des logiciels. Ça demande 7-8 logiciels à savoir opérer. Fait que on a approché ce côté-là. Ou ça va être peut-être quelque chose de complètement différent, c'est possible. Mais je veux travailler encore une journée ou deux. Être à la retraite, mais je ne veux pas travailler 5 jours par semaine. Je n'ai pas pris ma retraite de travailler 5 jours par semaine. Mais pour faire des à-côté, ça me plaît.
Ça t'achale-tu ce qui se passe dans les médias actuellement, à quel point il manque de professeurs partout, puis que là, ben, Bernard Drainville est tellement dans le trouble qu'il dit ben, même les professeurs non qualifiés, on va les accepter chez nous parce que pour chaque classe, ça prend... Lui, je pense qu'il a utilisé le terme adulte. Là, pour chaque classe, ça prend un adulte. Ça t'achale-tu, ça, qu'on soit rendu là, qu'on prenne des gens qui n'ont pas nécessairement la formation nécessaire pour être enseignant, puis on les place au primaire puis au secondaire?
Bon, à quelque part, ça m'achale, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est la seule chose à faire, de mettre un adulte dans le plan. Sauf que tantôt, je reviens à ce que je disais. En amont, qu'est-ce qu'on a fait pour être rendu là? Mm-hmm. On le savait. Donc, tantôt, je te disais, proposition de mettre des enseignants dans les écoles, les jeunes, leur proposer. On a commencé à faire des stages rémunérés. C'était pas rémunéré avant. Hein, 4 mois, quand tu travailles pas, là, puis tes parents sont pas capables de t'aider. Ou, tu sais, il faut qu'ils réussissent en amont à arriver. On savait qu'on allait manquer de personnel. Puis c'est pas fini, là, parce que je pense que d'ici 2030, en incluant cette année, 30 % des profs prennent leur retraite.
Là, tu vas nous faire des cauchemars, Marco!
Mais c'est la réalité. Mais de ce côté-là, je me dis, faut toujours travailler en amont de ce qui s'en vient, puis ainsi de suite. Mais remarque que du personnel, il en manque partout aussi. C'est comme le 12 000 $. S'il est arrivé avant le 12 000 $, peut-être qu'il y en a plus. Je sais pas, là, j'ai aucune façon de savoir combien en a qui sont restés, mais peut-être que ça va arriver avant, ben ça te permet de planifier puis de dire peut-être pas, ou il n'aurait pas arrivé à dire, écoute, au lieu de 2%, si vous faites une année de plus, on va vous donner 3% pour la fonds de pension, je ne sais pas. Mais on est arrivé encore à la dernière minute. On ne peut pas préparer à la dernière minute. Tu sais, pour te montrer comment c'est... Il y a des choses insignifiantes en éducation. Une année, la direction a m'offre au mois d'octobre de planifier, de dire « Marco, on aura besoin de toi pour s'occuper de l'informatique dans l'école. » Mais j'ai commencé avec mes élèves. Hein. Mes élèves, normalement, ils m'aiment. Ils sont heureux dans ma classe. J'ai accepté. J'ai fait de la haute trahison là, pour eux autres. Pourquoi? Parce que le budget dans une école, il n'arrive pas au début de l'année. Il arrive au mois d'octobre. OK? Je vais te dire, Yannick, commence à te faire ton bâtiment de maison. Je vais te dire combien tu as dans un mois.
Ah, ça ne marche pas.
C'est complètement illogique. Après ça, j'ai dit, tu me l'offres au début de l'année. Puis si tu me l'offres au début de l'année, je te dis non. C'est la seule façon. Tu t'organiseras avec les budgets, tu t'organiseras avec les affaires. Mais moi, je ne quitte plus mes élèves parce qu'ils se sentent trahis. Puis moi, je travaille pour qui? Mes élèves. Puis, tu vois, c'est ma vision, puis je suis convaincu qu'il y a plein de visions là, de chacun des enseignants. On voit toute l'éducation d'une certaine façon. Ouais. Moi, c'est ma vision. Je ne suis pas aigri de l'éducation. J'adore ça encore. Je suis un passionné. J'aime ça. Je fais fi des fois de ce qu'Adrainville va dire. De toute façon, les ministres, la plupart du temps, ils ne connaissent pas. C'est les sous-ministres qui savent parce qu'eux autres ne changent pas. Mais les ministres, là, sa déclaration qu'il a faite à propos de primaire, qu'est-ce que c'est? Moi, là, excuse-moi, là, mais en maternelle, je suis un passionné, là. Mais en maternelle, je ne serais jamais allé de ma vie.
Ah non.
En secondaire 1, la dernière fois que j'ai fait secondaire 1, là,
ouais.
Les élèves n'avaient pas cherché mon intellectuel. Ils venaient chercher le père en moi. J'ai dit plus jamais.
À ce point-là.
Ah oui, carrément. Parce que j'ai vraiment pas aimé ça. Du secondaire 2, ils vont venir chercher beaucoup plus l'intellectuel que le secondaire 1. Ouais. Fait que, tu sais, on apprend. Du secondaire 5, c'est complètement autre chose à enseigner que du secondaire 1 ou du secondaire 2 ou même du secondaire 3. En secondaire 3, c'est full adolescence. Là, on est carrément dedans.
Ouais.
Enseignant 6e année, puis en maternelle, c'est pas pantoute la même affaire. Non? Ça se peut que t'aimes pas pantoute en maternelle puis que t'aimes enseigner en 6e année.
Fait en terminant, tu sais, les décideurs auraient avantage des fois à parler avec des gens qui sont directement impliqués dans le chantier de la guerre là, pour être sûr et certain d'avoir une image complète puis être capable de l'expliquer ensuite, tu sais, leur décision en se basant sur quelque chose de concret. Puis moi, je prends un exemple d'une entreprise privée pour laquelle j'ai travaillé. C'est un restaurateur. Le restaurateur, lui, était propriétaire. C'est un gars qui était fortuné. Bien, je le voyais régulièrement dans la salle à manger faire le ménage. Je le voyais régulièrement à la plonge avec ses plongeurs pour faire la job. Puis, tu sais, moi, j'étais pas vieux à l'époque. Je devais avoir une vingtaine d'années. Puis, j'ai dit, mais, tu sais, Louis, pourquoi tu fais ça? Je peux pas savoir ce qu'eux autres vivent si je fais pas leur travail. Je peux pas savoir si ma plonge est efficace si je n'essaie pas de la faire au moins une soirée. T'sais. S'il y a des choses à améliorer, je vais le savoir de cette façon-là, en jasant avec les autres plongeurs. Mais nos décideurs auraient avantage à y aller comme ça, de cette façon-là. C'est-à-dire, oui, là, le sous-ministre est important. Oui, ceux qui sont en dessous du sous-ministre sont importants. Mais moi, je vais aller directement à source puis je vais jaser et voir comment ça se passe à l'intérieur d'une école.
C'est sûr que tout le monde y gagnerait, effectivement, parce que c'est pas facile à enseigner. Là. Je veux dire, j'adore mon métier, mais bon, j'ai beaucoup d'expérience, ça m'aide dans tout ça, mais c'est pas facile à enseigner. Là. Puis, même en maternelle, là à Montréal, en maternelle, où on parle 6 langues puis on parle pas le français,
ouais.
C'est pas facile là,
non,
à dire que. Puis préparer du matériel en maternelle, là. Il faut que tu y penses, il faut que tu le prépares, il faut que tu le fasses, tu sais, de dire que c'est plus facile en maternelle, c'est pas vrai, là, c'est chacune a un défi, comme chaque âge a un défi.
Ouais. C'est peut-être juste dans la façon de l'exprimer qui a raté ça, mais je veux dire...
C'est sûr qu'ils sont toujours sous les feux du projecteur, puis qu'en vérité, ils vont arriver, ils vont dire des affaires qui sont des fois complètement incongrues. C'est pour ça que j'en prends, puis j'en laisse. Je me fais pas de tout, puis je me fais jusqu'à toutes les fois qu'il y a eu un ministre d'éducation, puis je suis parti.
Marco Gauthier, professeur pendant plus de 35 ans en histoire et en géographie, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Puis peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, si jamais il y a un dossier là, qui touche l'enseignement, bien, je ferai appel à toi. D'ailleurs, j'ai un bon recherchiste, là, fait qu'il devrait te trouver assez rapidement.
Merci.
Un gros merci. Merci à Thomas aussi de m'avoir permis de faire cette entrevue-là avec toi. Puis au plaisir de te recroiser.
Ça, sûrement.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Bye-bye.
Merci.
Marceau, le soir. Ce soir, 22h. Ne manquez pas la diffusion en direct des Grands Feux Loto-Québec. À Boulevard 102.1.
Vivez pleinement votre été avec le nouveau Kia Seltos. Chaque modèle est bien équipé de caractéristiques de sécurité de pointe, comme l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts. Vous pouvez ainsi compter sur une assistance de tous les instants et rouler en toute sécurité pendant chacun de vos déplacements. Optez pour le véhicule qui vous permet de combiner aventure et sécurité. Achetez votre Kia Seltos 2024 chez votre concessionnaire. Visitez kia.ca pour plus de détails. Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Tu es débrouillard, créatif, autonome et détiens un diplôme d'études professionnelles en soudage-montage? Soudure Sani Poly est actuellement à la recherche de soudeurs-monteurs. Des postes permanents de jour et à temps plein sont à combler, avec un salaire de 26 à 35 $ de l'heure selon ton expérience. Et puis, on termine à midi le vendredi. Sans oublier que tu auras droit à 3 semaines de vacances en été et 2 semaines de vacances pendant les fêtes. T'as envie d'œuvrer dans la fabrication de produits métalliques? Postule pour Soudure Sani Poly au carrière.fm.
Pour un temps limité seulement, découvrez le maquis California épicé dans les restaurants Yuzu. Un délicieux classique revisité dont vous brûlez d'envie. Commandez en ligne au yuzu.ca ou via l'app Yuzu et ajoutez du piquant dans votre commande. Yuzu, c'est toujours bon.
Préparez-vous! Du 23 au 27 août, on s'en va corder au Festival du bûcher de Saint-Pamphile. Un événement unique et familial pour célébrer la forêt. Compétition de sillage et cordage, abattage de précision, lancer de la hache, des spectacles pour les grands et petits, des feux d'artifice, il y en a pour tous les goûts. Ne manquez pas les prestations des deux frères, Phil Lauzon et Zach Morgan, le vendredi. Pour des festivités qui bûchent, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. On se donne rendez-vous au Festival du bûcher de Saint-Pamphile.
Savais-tu que la formation continue du Cégep Garneau offre la seule formation complète en ressources humaines de niveau collégial à Québec? Ça te parle? Inscris-toi à l'AEC Agent en support à la gestion des ressources humaines. Débutant le 2 octobre prochain avec un horaire de jour, 20 heures par semaine et offerte en enseignement hybride, la formation d'un an inclut 5 semaines de stage en entreprise pour que tu puisses t'intégrer rapidement au marché du travail. Toutes les entreprises ont besoin de spécialistes en RH. N'attends pas. Détails au progresseez.ca.
C'est la plus grande liquidation de l'année chez Sale. Obtenez jusqu'à 70 % de rabais sur une vaste sélection de produits. Vous trouverez les meilleurs rabais sur des milliers d'articles de plein air. Soyez équipés été comme hiver avec Sale. Sale, votre destination plein air 100 % québécoise.
Boulevard 102 a mené un sondage auprès de la population de Québec. Nous lui avons demandé...
Et vous, là, occasionnellement, est-ce que vous écoutez des fois Boulevard 102.1 en faisant du barbecue?
Boulevard quoi?
C'est unanime. 100 % de nos répondants disent que la radio officielle pour faire du barbecue, c'est Boulevard 102.1. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette heure en compagnie de Marco Gauthier, qui est un professeur pendant plus de 35 ans, là, qui il enseignait l'histoire et la géographie, mais il nous parlait un peu du métier en général d'enseignant. Pourquoi il y a de moins en moins de gens qui se présentent pour faire ce métier-là? Qu'est-ce qu'il pense de Bernard Drainville et tout ça? C'est une entrevue que j'ai adoré faire avec le père de Thomas, mon collègue. Donc, M. Marco Gauthier qui était avec nous dans la dernière heure. Le podcast va être disponible dans les prochaines heures au www.blvd.fm ou encore sur l'application. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée, puis on se rejase demain à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Profitez de la belle soirée. Il n'y a pas de pluie de prévu. Ciao!
Marceau le soir.
Cet été, les grands feux Loto-Québec et Boulevard 102.1 font équipe pour vous émerveiller avec des spectacles pyrotechniques à tous les jeudis. C'est une saison estivale haute en lumière qui vous attend. Profitez de 8 soirées festives gratuites sur chacune des rives du fleuve.
Le jeudi 24 août à 22h, assistez à la représentation sous la thématique Playa. Boulevard 102.1 diffusera fièrement la musique qui rythmera les explosions de lumière.
Les grands feux Loto-Québec et Boulevard 102.1, fiers partenaires de vos scintillantes soirées d'été.
Cet été, maintenez l'efficacité de votre thermopompe et faites confiance à des professionnels pour son entretien. Faites confiance à Océanique Nettoyage, expert en nettoyage de thermopompes. OcéaniqueNettoyage.com.
Dès jeudi, c'est la grande vente porte ouverte chez Escale VR Beaumont. Venez profiter de méga promotions sur plusieurs de nos modèles. Épargnez jusqu'à 20 000 $ sur plus de 200 unités en inventaire et profitez de taux d'intérêt compétitifs. À chaque achat, courez la chance de gagner un voyage tout inclus dans le sud d'une valeur de 3 000 $ en collaboration avec le Voyagiste de Québec. Ce week-end, rafraîchissement et épluchette de blé d'Inde sur place. Escale VR, 12 rue de la Chute à Beaumont, sortie 337 de l'autoroute 20.
L'été, c'est le traditionnel rafting signé Expédition Nouvelle Vague. 3 heures en rafting dans la mythique section Tewksbury de la rivière Jacques-Cartier. Aussi, nage en eau vive, saut de falaise, barbecue sur la terrasse et bien plus. 2 départs par jour, réservation obligatoire. Détails au expéditionnouvellevague.com.
Toute l'équipe de Boulevard 102.1 tient à rectifier le tir à la suite d'une diffusion prématurée d'annonces sur la liquidation de climatiseurs chez Enviroconfort. 1000 excuses pour le chaos créé par les avalanches d'auditeurs voulant profiter de rabais monstres. Mais non, vous le savez, à Boulevard 102.1, on est presque parfait. C'est pour ça qu'on s'allie à Enviro-Confort. Pas besoin de fausses pubs. Profitez de 15% sur votre climatiseur. Rendez-vous sur place ou sur enviroconfort.com.
Boulevard 102.1. Boulevard.
Boulevard.
102.1.
Hey, savais-tu que t'as pas besoin de parler à personne pour devenir membre FIS? Je me suis fait livrer ma carte SIM chez moi puis j'ai fait l'installation de mon Internet tout seul. C'est facile, hein? Passer à FIS. Allô? Allô?
Le Collège François de Laval, c'est LE milieu de vie pour s'épanouir. Visitez-nous lors de nos journées portes ouvertes les 16 septembre et 17 septembre prochains. Au CFDL, vos jeunes peuvent choisir parmi une foule d'options stimulantes dès le premier cycle du secondaire afin de développer leur passion. Nouvelle option Athlète Plus, sciences et robotique, art, en plus d'un programme enrichi en anglais. Réservez votre place aux portes ouvertes du 16 ou du 17 septembre au collègefdl.ca. Au Collège François de Laval, deviens qui tu veux, rien de moins.
Chez Toyota, on construit des véhicules de qualité en pensant à vous. Comme pour ces moments où vous faites la navette sans arrêt pour vos enfants, au point où vous êtes plus étourdi que dans un manège. Pour vous aider à survivre au train-train quotidien, nos véhicules vous offrent tout l'espace et la durabilité dont votre famille a besoin. Quand la vie va vite, c'est l'heure Toyota. Découvrez la famille RAV4 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetezmatoyota.ca.
Boulevard 102.1. Gratis.
Spotify 10,99 par mois. Patreon 5$. Abonnement au câble 55$. Journal 24$.
Boulevard 102.1.
Gratis.
La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0$.
Gratis.
Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.
Gratis.
La vraie solution à l'inflation. C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Oh, ça, c'est du rock.
Excellent mardi 22 août 2023, il est 19h et c'est l'heure du volume au max. On complète la soirée ensemble à Boulevard 102.1. Quelle belle soirée hier au Centre Vidéotron, le Monday Night Raw. Je suis chanceux que ma voix soit toujours bien présente aujourd'hui parce que je dois admettre que je me suis laissé emporter par les émotions. À encourager, oui, nos Québécois, mais aussi les autres gentils. Je me demandais si ça va être facile de cerner quand tu connais pas trop ça, qui est gentil, qui est méchant. Oui, c'est assez facile. Il y a des vrais amateurs qui sont là de toute façon pour bien le faire comprendre. Et non, j'ai vraiment passé une belle soirée hier au Monday Night Raw et j'ai très hâte au prochain show de la WWE à Québec parce que c'est clair que ça reviendra avec l'ambiance, avec les 11 000 personnes qui étaient là hier au Centre Vidéotron. En musique, ce que j'ai pour vous dans les prochaines minutes, puis dans la prochaine heure, là, j'en ai de la très bonne pour vous, mais drette là, ben, les Wallflowers s'en viennent, Better Than Ezra, ce cas-là aussi, Linkin Park avec le grand succès Numb, Cage the Elephant, et tout de suite, c'est Muse avec...
Compliance. We just need your compliance. Feel no pain anymore, no more defiance. We just need your compliance. Just give us your compliance. We won't let you feel lost anymore, no more self-reliance. Fall into line, you you're told, no choice, fatigue, your blood is running cold, we lose control, the world will fall apart, love of your life, will mend your broken heart, life lived in fear, you need protection, you're all alone, too much rejection, we have what you need, just reach out and touch, we can save you, compliance. You will feel no pain anymore.
soldier, you'll do the dirty work. Stay loyal to us, we'll take away the hurt. We have what you need, just reach out and search. We can save you, just give us your compliance.
Oh.